Bonjour Patrick.
Bonjour Étienne.
Je suis avec Patrick Flandrin, spécialiste détection du signal sous la coupole de l'Institut de France et nous allons parler de collaboration entre les États-Unis et la France d'une aventure qui s'appelle Virgo LIGO.
Voilà. Donc c'est une collaboration effectivement internationale. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'on va en parler, mais Virgo et LIGO, c'est une infrastructure de recherche de très grande taille, et ça ne peut se concevoir que dans un cadre mondial, en fait. C'est une collaboration transatlantique entre les États-Unis d'une part, et puis l'Europe, la France évidemment, mais aussi l'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et cette collaboration s'est construite pendant plus de 30 ans, et dès 2008, l'ensemble des données ont été partagées, aussi bien avec les équipes des États-Unis qu'avec les équipes européennes. Donc on va voir effectivement si la première détection symbolique, emblématique d'ondes gravitationnelles est associée à une mesure qui a été faite par les détecteurs sur le sol américain. Il n'empêche que immédiatement ça a été l'objet de la collaboration internationale où les deux composantes transatlantiques ont contribué.
Patrick, question directe, c'est quoi une onde gravitationnelle ?
Une onde gravitationnelle, c'est une vibration de l'espace-temps.
Tu m'en diras tant.
C'est quelque chose qui a été prédit par Einstein dans le cadre de sa théorie de la relativité générale, qui fait un ensemble, un continuum entre l'espace et le temps. Et cette prédiction, elle a été assortie d'une hypothèse, donc la théorie de la relativité générale 1916, une hypothèse en 1918, que de telles ondes pourraient être créées par des masses accélérées. Mais ces ondes sont extrêmement ténues. Donc si on veut...
Mais des masses accélérées, pas, alors je fais tomber mes clés, ça ne va Exactement. Pas créer des, voilà. des ondes gravitationnelles.
Voilà, ça sera une onde gravitationnelle tellement infime que le plus grand des instruments du monde n'arrivera jamais à la détecter. Par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'on sait que dans l'univers, il y a des événements qui sont extrêmement énergétiques, qui peuvent être très importants. Heureusement, ils sont très lointains, donc ils ne nous impactent pas de manière directe. Donc ces événements très énergétiques, ça peut être des fusions de trous noirs, des événements de ce type-là. C'est susceptible de produire des ondes, certes, fort ténues quand elles arrivent sur Terre, mais peut-être détectables s'il y a des instruments adaptés. Et c'est exactement l'objet de la collaboration LIGO vers Virgo, de concevoir de tels instruments pour arriver à faire une détection de ces ondes extrêmement ténues lorsqu'elles nous arrivent sur Terre.
Bon, alors maintenant, rentrons dans la pratique. Comment on fait pour détecter ces petites ondes microscopiques ?
Alors, on recourt à un principe interférométrique. Évidemment, on ne va pas pouvoir mesurer directement les choses, on va le mesurer par une forme de comparaison en faisant interférer des ondes. Alors l'idée, c'est d'avoir une structure avec deux bras. Au bout des bras, il y a des miroirs. On fait voyager un rayon laser qui va heurter un miroir, qui va revenir. Il y a une lame, il heurte l'autre miroir, il revient aussi, et on recompose les deux rayons. Et comme ce sont des ondes, des fois, elles coopèrent d'une manière constructive et des fois d'une manière destructive. Voilà. Donc ça, c'est le principe de l'interférométrie. Si une onde gravitationnelle passe sur cet instrument, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'il y a un effet différentiel sur les bras. Il y a un bras qui va être, on va dire, plus court.
Un tout petit peu.
Un tout petit peu et un autre tout petit peu plus long du fait du passage de l'onde. Mais c'est un tout petit peu qui est de l'ordre du millième du diamètre d'un proton. Donc c'est extrêmement petit. Mais il n'empêche que la recombinaison de ces deux rayons par interférence, permet de mettre en évidence un déplacement de ce qu'on appelle la frange centrale de l'interféromètre. Et c'est ça qui est mesuré et c'est ça qui porte la signature d'une onde gravitationnelle si elle vient à passer sur l'instrument. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en tout, il y a trois de ces détecteurs. Donc LIGO, c'est deux interféromètres qui
deux
sont
bras.
Aux États-Unis. Deux interféromètres.
D'accord.
Il y en a un dans l'État de Washington et un en Louisiane. Ce qui est bien parce qu'évidemment, ça permet de corroborer, disons, ces événements sont très rares et normalement, s'il y en a un qui arrive sur un des instruments, on le voit sur l'autre aussi. Et on a un troisième qui est celui de Virgo qui, lui, est en Italie, à côté de Pise.
Alors, si je comprends bien, il y a un physicien qui est face à un petit écran et qui attend que ça vibre.
Oui, c'est une façon imagée de voir les choses.
J'aime bien les imaginations.
Voilà, il y a des détecteurs qui sont en train de regarder ce qui se passe sur les franges d'interférence et voir si ça bouge. Alors, la bascule, en effet, c'est le 14 septembre 2015. Midi, heure de Paris, où un petit événement est observé séquentiellement sur les deux détecteurs de LIGO. C'est une petite oscillation, ce qu'on appelle un petit chirp. Chirp, ça veut dire gazouillis en anglais pour un sifflement d'oiseau. C'est comme un petit chant d'oiseau cosmique. Une petite oscillation qui s'accélère comme ça. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est quelque chose qui avait été prédit théoriquement et qui a été reproduit dans cette observation avec une extrêmement grande fidélité par rapport à ce qu'avaient développé les théoriciens comme Thibaut Dabour en France en particulier.
C'est pas seulement qu'on voit cette vibration, c'est la forme de la vibration.
Il y a, voilà, alors on voit la vibration, donc il y a un problème qui est un problème de détection, il y a un problème ensuite d'identification parce que la forme de cette oscillation, elle porte aussi une information sur la nature de l'événement. Donc ça... Alors, l'observation a été faite à ce moment-là par les deux détecteurs de LIGO, séquentiellement, entre la Louisiane et l'État de Washington. Et l'analyse, la détection proprement dite, la qualification de l'événement et les informations qu'on pouvait en tirer, là, ont été tout de suite partagées et faites par l'ensemble de la collaboration Virgo-LIGO. Et ça a résulté en un article en 2016, qui est un article où on voit l'importance et l'ampleur de ces grandes collaborations, puisque c'est un article qui a plus de 1000 auteurs.
Alors cet événement, c'était il y a combien de temps et à quelle distance ?
C'était un événement qui était une fusion de deux trous noirs à plus d'un milliard d'années-lumière.
Un milliard d'années-lumière. Et après, qu'est-ce qui se passe ?
C'était peut-être un coup de chance d'avoir le premier événement, mais évidemment, tout le monde en attendait d'autres. Et donc ça, c'est le deuxième événement emblématique qui a été observé. Ça s'est passé en 2017. Et en 2017, cette fois-ci, les trois détecteurs, les deux de LIGO et de Virgo, étaient opérationnels en même temps. Et cette fois-ci, on a détecté un nouveau type d'événement qui était une fusion de deux étoiles à neutrons. L'intérêt d'avoir les trois détecteurs, c'était de non seulement de faire permettre la détection, mais aussi de permettre, par une forme de triangulation, une estimation de la direction dans le ciel. Donc ce qui permet de pointer...
Parce qu'auparavant, on ne connaissait que la distance.
Voilà, c'est compliqué. On avait un très grand angle de possible sur l'origine.
Alors cette fois, l'expérience n'est plus uniquement une expérience états-unienne, mais devient une expérience européenne également.
Tout à fait. C'est une expérience pleine de la collaboration. Virgo, qui certes a une moindre sensibilité que LIGO, est néanmoins essentiel parce qu'il permet d'avoir la localisation de la source dans le ciel. Donc ça, c'est un énorme progrès qui a permis la mise en évidence de la Kilonova. Et c'est aussi, évidemment, toute l'analyse associée qui a été conduite dans le cadre de la collaboration. Partage de données, validation de la détection, estimation des paramètres, etc. Mais bon, c'est toujours pareil, ça ne s'arrête pas là, puisque ensuite, les observations ont continué. Et si on s'arrête à la campagne qui s'est terminée en novembre 2025, d'observations qui étaient faites par l'ensemble de ces instruments, c'est maintenant plus de 400 événements qui ont été observés et validés.
Pour résumer, tu nous as raconté une aventure véritablement collaborative, véritablement internationale. On a l'impression que la planète entière se met à écouter les bruits dans l'univers.
Oui. Alors bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un rêve aussi. Cette idée qui semblait folle quand les premiers projets se sont mis en place, finalement, elle s'est concrétisée, elle a abouti à des résultats qui étaient des résultats extraordinaires. Et ça n'aurait pas pu exister sans le cadre d'une collaboration très large. Alors la collaboration, c'est la collaboration entre les États-Unis, la France et plus largement l'Europe, mais c'est aussi quelque chose qui s'étend, qui s'est étendu et qui continue à s'étendre, puisqu'il y a un quatrième détecteur qui a été mis en place au Japon, Kagra, et puis il y a des projet d'avoir des nouveaux détecteurs de nouvelle génération, aussi bien au niveau européen avec l'Einstein Telescope qu'au niveau États-Unis avec Cosmic Explorer, qui cette fois-ci gagneront au moins un ordre de grandeur sur la taille des interféromètres et permettront a priori d'agrandir ou d'ouvrir encore davantage cette nouvelle fenêtre d'observation sur l'univers.
Merci Patrick, je vais te remercier pour cette discussion qui est tout à fait intéressante. Je dois dire que je ne connaissais pas bien tout ça, je connais un peu mieux, mais j'ai encore beaucoup à apprendre.
Merci.